Cher Noriel, bonjour.
Bonjour.
Je souhaiterais qu'on parle aujourd'hui de l'action face à ces phénomènes que sont le racisme, l'antisémitisme et peut-être, ajouteras-tu, la xénophobie. Quelles sont les formes d'action les plus efficaces? Quelles sont peut-être celles aussi qui sont inopérantes? Est-ce qu'on peut avoir un recul historique sur des formes d'action qui ont fait reculer ces phénomènes?
D'abord, je crois qu'il faut dire que le point de départ du monde dans lequel on vit encore aujourd'hui, c'est, disons, les débuts de la Troisième République. C'est vraiment à ce moment-là que se structurent les forces qui, à la fois, vont alimenter le racisme et l'antisémitisme, et celles qui vont le combattre, parce que les deux se structurent en même temps. Donc c'est le début de la Troisième République, de la presse de masse, du parlementarisme. Et donc, au départ, c'est focalisé sur l'antisémitisme, et puis petit à petit, il va y avoir une diversification des haines politiques. Et donc, c'est à ce moment-là que se forme, je dirais, au départ, dans le cadre de l'affaire Dreyfus, derrière Zola, etc., mais un regroupement de forces intellectuelles qui véhiculent et défendent les principes de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et qui vont donc s'activer d'une manière qui va être extrêmement efficace à ce moment-là, puisque donc, la révision du procès, puis la réhabilitation de Dreyfus, mais qui vont aussi structurer une tradition qui, je crois, était particulièrement forte en France et qui est peut-être mise en question aujourd'hui, qui est celle de l'intervention intellectuelle pour rappeler un certain nombre de valeurs, qu'on appelle les valeurs républicaines, la défense des droits de l'homme, et qui donc, on peut la mesurer, on peut l'observer, donc, début du siècle. C'est à ce moment-là que les mots antisémitisme, racisme et xénophobie se fixent dans le vocabulaire français. Ça se crée en même temps. Et on peut poursuivre ces phénomènes jusque pratiquement aujourd'hui, dans les années 80. Et donc nous sommes quelque part les héritiers de cette tradition-là. Donc les formes d'intervention des intellectuels, ben, c'est la connaissance. Hein, c'est fondamental. C'est donc, il y a toute une dimension qui consiste, d'où l'importance de l'éducation et de la culture, parce qu'historiquement, eh bien, ce sont les formes principales pour faire reculer les préjugés qui nourrissent toujours la haine de l'autre par le fait, c'est la connaissance, c'est l'ouverture sur des mondes différents, etc. Donc les intellectuels ont traditionnellement un rôle important à jouer. Le problème, c'est que il y a pu avoir ce que moi j'ai appelé des inversions, des renversements, c'est-à-dire on peut avoir, et je pense que c'est particulièrement vif aujourd'hui, c'est-à-dire parce qu'on est dans une société plus compliquée que celle de la Troisième République, avec des formes d'antagonisme, des oppositions qui prennent des formes parfois difficiles à maîtriser, à comprendre, d'où le rôle des intellectuels aussi de faire leur travail, notamment les chercheurs en sciences sociales, de compréhension de la société, et puis de trouver des modes d'action qui soient aussi adaptés aux formes que prend aujourd'hui le racisme. Et c'est là-dessus, moi je suis intervenu, moi-même étant depuis très longtemps engagé en tant que citoyen dans la lutte contre le racisme, mais je pense qu'il y a une certaine routine qui s'est installée aussi aujourd'hui dans l'antiracisme et qui nécessite aussi de penser à nouveau frais, je dirais, ces questions-là. Donc ça, c'est une première responsabilité, c'est au niveau même de la connaissance. Bon, des travaux, les travaux qu'on a pu produire là-dessus, puis après de communication, de transmission. Et là aussi, on est face à des formes nouvelles. Enfin, moi, je m'occupe d'une association d'éducation populaire, et après avoir pendant des décennies fait des conférences, je dirais, concernant le racisme, je me suis bien rendu compte aussi des limites, je dirais, du discours pédagogique, j'allais dire classique, qui souvent prêchent déjà des gens qui sont convaincus, qui n'arrivent pas à toucher certains milieux, notamment dans les classes populaires. C'est pour ça que moi, je travaille avec des artistes et on essaye de transformer le message de façon à toucher aussi la corde émotionnelle.
Mes ancêtres venaient d'Afrique. Ils ont été déportés loin là-bas, en Amérique, dans les cales des bateaux négriers. Mais quand je pense à vous, moi, oh yeah, j'ai le blues. Imagine, tu es seul noir au pays des Blancs. Eh, cool, hein? Je dis, imagine seulement. Tu sais, comme dans les rêves, ou plutôt un cauchemar.
On constate depuis toujours que la force que les organisations d'extrême droite peuvent avoir leur message de haine vient du fait qu'ils touchent beaucoup plus l'émotionnel que le rationnel, si on veut dire. Hein. Et donc c'est à nous aussi de pouvoir trouver, de susciter des alliances avec des artistes, que ce soit un spectacle vivant ou d'autres. Moi, je travaille aussi avec des gens du cinéma, avec Omar Sy pour ce film Chocolat, qui permettent donc d'élargir aussi le public auquel on va s'adresser. J'avais envie de toucher la question culturelle, mais par un biais populaire. D'ailleurs, on sait beaucoup de choses sur Picasso, sur les grands musiciens, sur les grands artistes. Mais moi, je voulais montrer aussi que cette diversité qui nous constitue aujourd'hui, elle venait aussi par des milieux populaires. Donc j'ai rencontré, comme ça, dans mes recherches, une petite note, il n'y avait pratiquement rien, hein, sur ce premier artiste noir qui a connu la célébrité en France, qui était ce clown Chocolat. Et en même temps qu'on en faisait un petit spectacle qui a tourné pendant plusieurs années en France, dans les écoles, on a beaucoup travaillé avec le milieu scolaire, ou dans les quartiers, dans les cités, etc. J'ai écrit un livre qui a intéressé un producteur de cinéma, et donc c'est comme ça que j'ai été mis en contact avec des acteurs, Roche Dizem, qui a réalisé ce film, et Omar Sy, qui s'est passionné pour cette histoire-là. Et donc, ça prouve, alors je ne dis pas qu'on peut, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, mais malgré tout, ça prouve que quand on essaye de sortir un peu nous-mêmes de notre milieu, on peut tisser des alliances et toucher donc un public plus large, puisque quand même ce film a attiré 2 millions de spectateurs. Et donc, en quoi c'était important pour la lutte contre le racisme? Eh bien déjà, c'est de convaincre sous une forme, je dirais aussi ludique par le fait du spectacle, que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est le produit d'une diversité beaucoup plus grande que ce qu'on pourrait croire a priori. Je ne parle même pas de nos ancêtres, les Gaulois, bien évidemment, mais même qui savait avant ce travail, ce film, ce spectacle, que le personnage de l'Auguste, que tout le monde connaît, on a tous été au cirque, on a vu l'Auguste qui se prend des baffes par le clown blanc et qui a un nez rouge, ben, le premier c'était le Chocolat. Qui savait que le premier clown thérapeute qui a joué dans tous les hôpitaux de Paris, j'ai retrouvé les archives, qui avait inventé le rôle du clown, du rire médecin, comme on dit aujourd'hui, puisqu'il y a plus d'une centaine de clowns qui interviennent dans les hôpitaux, c'était lui aussi. Donc il y a aussi ce devoir de mémoire, comme on dit parfois, qui est important à réaliser, de façon à ce que notre mémoire soit plus en phase avec la société dans laquelle on vit. La mémoire est beaucoup moins diversifiée que la société dans laquelle nous vivons. Moi, je pense qu'il y a une crise des associations. On l'a vu dans toutes les polémiques autour du foulard, enfin, qui ont divisé parfois le MRAP, la Ligue des droits de l'homme, etc. Et moi, moi-même étant proche, hein, ce que je reprocherais, c'est de peut-être trop se focaliser sur. Aujourd'hui, on a ce qui est pour moi un indice de la crise, c'est se focaliser sur des procès. On va faire des procès à des gens qui ont eu des propos racistes, etc. C'est très important, hein. Je veux dire, il faut tenir compte aussi des progrès grâce à ce combat, parce qu'autrement on verse dans un pessimisme absolu. Il y a eu des progrès, toutes les luttes qui ont été menées par les générations qui nous ont précédés font qu'aujourd'hui nous avons une législation antiraciste qui n'existait pas. Si on prend encore, juste pas insister trop, mais l'exemple de Chocolat, il a été caricaturé par Toulouse-Lautrec. Toutes les caricatures de Toulouse-Lautrec, on le présente avec les traits d'un singe. Ce qui, à l'époque, ne choquait personne. Nous sommes à la fin du XIXe siècle, dans l'avant-garde artistique, et on trouve ça. Donc aujourd'hui, évidemment, il y a quand même un progrès de la conscience, malgré tout, universelle, j'allais dire. Mais en même temps, voilà, il y a une crise, parce qu'on a du mal à s'adapter, ce que tu disais, à cette diffraction, à cette multiplication aussi des causes, des interventions. Et donc, les associations ont plus de mal à se positionner.
Il y a des débats très, très violents, je dirais, intellectuellement, politiquement, à propos de l'antiracisme. Dans les années surtout 90, moins peut-être oui. Aujourd'hui, beaucoup ont critiqué l'antiracisme de façon extrêmement véhémente. Est-ce que tu pourrais nous éclairer sur ce débat et sur une position comme celle que tu peux apporter ou adopter?
Ben, ça, effectivement, c'est-à-dire que la violence de ce débat, elle s'expliquait en partie parce que les antiracistes n'avaient pas fait peut-être une analyse critique de leur propre démarche. C'est ça qui est peut-être le plus difficile, parce que quand on est engagé dans une cause, qu'on y sacrifie beaucoup de temps, des intérêts souvent, etc., c'est très difficile en même temps d'être lucide complètement, évidemment, puisqu'on ressent toute critique comme une forme d'injustice. Mais en même temps, c'est nécessaire, quoi. Moi, j'ai toujours essayé, dans toutes les organisations où j'ai été, d'être un petit peu la mouche du coche, tu vois, pour essayer de dire « mais qu'est-ce qui ne va pas dans ce qu'on fait ?» Si le monde évolue de manière négative, on a aussi une part de responsabilité. Où se situe-t-elle ? C'est un petit peu ça peut-être qui a manqué. Donc du coup, effectivement, on sait qu'il y a eu des usages politiques de l'antiracisme dans les années 80, avec l'arrivée de la gauche de Mitterrand, SOS Racisme, etc. Bon, et ça a été... il y a eu là des choses qui étaient peut-être déviées.
On peut s'arrêter sur SOS Racisme. Est-ce que tu pourrais nous résumer le parcours de ce mouvement et la critique qui a pu en être faite?
Oui, donc là, je pense qu'il y a eu des bouleversements extrêmement importants à tous les niveaux dans les années 80. Là, je pense qu'on est entré, que plus tard, les historiens diront que les années 80, on est entré dans une nouvelle époque avec... Moi, j'ai fait ma thèse sur les ouvriers sidérurgistes de Longwy, donc la chant du cygne, d'une classe ouvrière, donc une démobilisation, une crise du mouvement ouvrier très forte. C'est très important dans les questions qu'on aborde, parce que la question sociale, le facteur social, il est déterminant aussi dans une forme d'universalisme, on pourrait dire. Hein, prolétaires de tous les pays, unissez-vous, c'est quand même bien un message universel. Et donc, avec les organisations qui portaient un peu ce message social, ce discours social, ayant aussi connu une crise très forte, ça explique aussi le retour de l'identitaire, comme on peut dire aujourd'hui. Et je pense que les années 80 ont joué un rôle majeur à ce niveau-là, et que, comment dirais-je, il y a eu du côté de la gauche, notamment de la gauche socialiste, une sorte d'évolution où, dans un premier temps, c'était les travailleurs immigrés, les travailleurs ont progressivement disparu du champ, et il y a eu un basculement vers la deuxième génération, ce qu'on appelait les labeurs, un terme que moi j'ai toujours refusé, parce que je trouve contradictoire avec les valeurs républicaines, enfin. Et donc, à partir de ce moment-là, oui, il y a eu donc le débat politique, c'est déplacé, et il a porté autour la question du racisme et de l'antiracisme a pris une importance extrêmement grande, mais un peu au détriment aussi du social. Et il y a eu cet affrontement entre la droite et la gauche autour de cette deuxième génération. Et parmi les choses, moi, que je continue à juger très positives, ça a été tout le mouvement impulsé, notamment par Jacques Lang, qui visait à promouvoir la lutte contre le racisme au moment où le Front National était en train de se développer, etc. Donc là, on a un mouvement qui me semble progressiste et auquel j'ai participé d'ailleurs, que j'ai défendu, mais qui a été attaqué comme façon... Historiquement, on retrouve toujours ce clivage. Hein. Il se présente après sous des formes différentes, mais c'est le clivage classique que moi j'avais caractérisé. C'est plus valable pour aujourd'hui, je pense, mais entre la droite nationale sécuritaire et la gauche sociale humanitaire, en gros, humaniste. On a ce clivage qui était lié à l'affaire Dreyfus, qui a perduré et qui commence à entrer en crise dans les années 80, mais qui y a une très grande offensive aussi de la part des forces conservatrices pour aller discréditer donc l'antiracisme. Donc voilà. Donc profitant des faiblesses ou de problèmes réels, il y a tout aussi ce discours, le droit de l'hommisme, je ne sais pas si tu te souviens, visant à discréditer toutes les formes d'intervention qui visaient à défendre les droits de l'homme. Ça a été un mouvement important et qui a eu des effets considérables. Je crois qu'ils ne sont pas innocents dans la crise qu'on traverse aujourd'hui. On voit bien qu'au départ, le mot racisme, il désigne un courant politique, c'est-à-dire une politisation, une forme de politisation. En France, il a été d'ailleurs employé, c'est surtout à partir des années 20 qu'il est utilisé, pour dénoncer Hitler. Hein. Au départ, c'est vraiment là que, donc, extrêmement rare étaient les Français qui se disaient racistes. Il y en a quelques-uns, mais c'était extrêmement rare. Donc là, on avait bien une critique d'une action politique. Et on a basculé petit à petit avec un élargissement, et le mot racisme aujourd'hui, il désigne ce qu'on appelait autrefois beaucoup les préjugés. Et moi, je suis pour qu'on rétablisse cette distinction entre les préjugés et le racisme. Mais après, dans les formes de politisation, dans les usages qu'ils ont faits. Pendant longtemps, ça a été la religion qui a véhiculé ces haines. Puis après, il y a une laïcisation. Aujourd'hui, c'est les partis politiques. Donc je pense, moi, que les élites, globalement, au sens large, ne peuvent pas se dédouaner de leurs propres responsabilités, comme c'est le cas parfois, dire tout haut ce que les gens pensent tout bas. Cette formule très perverse, l'extrême droite, est dangereuse, parce que non, parce qu'on contribue à forger aussi ce que les gens pensent. Donc moi, c'est surtout là-dessus que je me suis focalisé, en considérant qu'il y avait un combat propre à mener au sein de notre milieu. Il y a donc ce qu'on a évoqué tout à l'heure, la diffusion, la pédagogie, on pourrait dire, de diffusion des connaissances dans un public large, mais il y a aussi une lutte à mener au sein des élites pour maintenir le cap sur des valeurs, même quand on nous dit que, voilà, elles sont obsolètes ou qu'on est coupé des réalités ou quoi. C'est quand même aussi une résistance. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faut la maintenir.